L'esprit public, Philippe Meyer, bonjour et bon Noël. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette première de deux émissions thématiques que traditionnellement nous diffusons au moment des vacances de Noël, puis ensuite au moment des vacances de printemps. Et pour cette émission spéciale, et compte tenu de la période, et compte tenu aussi du jour, nous recevons Nicolas Rouvière. Nicolas Rouvière, bonjour.
Bonjour.
Nous le recevons à propos d'Astérix, de son identité, de son importance et des différentes controverses qu'il a pu susciter. Nous, c'est Max Gallo, romancier et historien, c'est Thierry Pêche, directeur de la rédaction d'Alternatives économiques, et c'est Éric Leboucher, directeur de la rédaction d'Enjeux les Échos et également éditorialiste du site slate.fr. Nicolas Rouvière, vous êtes maître de conférence à l'Université Joseph Fourier Grenoble 1, où vous enseignez la littérature et la didactique de la littérature. Vos recherches portent sur les littératures de grande diffusion et de jeunesse, en particulier la bande dessinée. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la série créée par Albert Uderzo et René Goscinny en 1959 et publiée pour la première fois en 1961 dans le journal Pilote. Cette série, c'est Astérix. En 2006, vous avez publié Astérix ou les Lumières de la Civilisation, aux Presses universitaires de France, livre qui reprenait les principaux éléments développés dans votre thèse de doctorat, pour laquelle vous avez d'ailleurs obtenu le prix du journal Le Monde pour la recherche universitaire. Dans Astérix ou la parodie des identités, dans la collection Champs aux éditions Flammarion en 2008, vous vous attachez à montrer comment Goscinny et Uderzo se sont amusés à parodier trois domaines, l'imagerie scolaire gauloise d'une part, les stéréotypes sur les Français ensuite et les idées reçues sur les peuples étrangers enfin. Afin de rappeler à nos auditeurs la musique du texte de Goscinny, je voudrais citer un extrait d'Astérix en Corse, paru chez Dargo en 1973, extrait dont vous analysez dans l'un des chapitres de votre livre « Les ressorts comiques ». L'album s'ouvre de la façon suivante. « Pour la plupart des gens, la Corse est la terre natale d'un empereur qui a laissé dans l'histoire des pages aussi indélébiles que celle inspirée par notre vieux complice Jules César. » C'est aussi le berceau d'un chanteur de charme à la longue et prestigieuse carrière, dont les refrains où il est question de Marinella et d'une belle Catarinetta, Chichi, ont fait le tour du monde. C'est aussi le pays de la vendetta, de la sieste, des jeux politiques compliqués, des fromages vigoureux, des cochons sauvages, des châtaignes, des succulents merles moqueurs et des vieillards sans âge qui regardent passer la vie. Dans l'introduction de votre livre, vous écrivez « La matière première d'Astérix est constituée du catalogue de tous les signifiants figés censés caractériser la culture des Français et de leurs voisins. Les HLM, dont je rappelle à nos auditeurs qu'ils désignent les habitations latines mélangées, le PMU, le home sweet home, la bière chambrée, le plat pays, les moules frites notamment. Énumération à laquelle on ne peut manquer d'ajouter le SMIC, le sesterce minimum d'intérêt gaulois. Et vous dites « Goscinny et Uderzo sont en quelque sorte les Viollet-le-Duc des mythologies nationales. Ils se livrent à un véritable recensement des représentations établies avant de leur faire subir le traitement radical de la parodie. » Dans un entretien que vous citez, entretien accordé à Bernard Pivot en 1976 pour le magazine Lire, René Goscinny racontait « J'ai vécu à l'étranger, nanti d'une culture française, puisque j'ai été élevé dans un collège français, et la France vue de l'étranger est une chose très spéciale, qui correspond peu à la réalité, il faut bien le dire. » Vous racontez que lorsqu'un admirateur cherchant à identifier chacun des auteurs d'Astérix lui demandait « Et vous, vous êtes qui ?», le scénariste aimait à répondre « Moi, je suis l'autre ». Au-delà de la boutade, c'est peut-être le secret même d'Astérix, écrivez-vous, qui est à entendre derrière cette curieuse formule. Pour ouvrir notre conversation, j'aimerais vous interroger sur le sens de cette analyse. Que voulez-vous dire lorsque vous écrivez que cette formule « Moi, je suis l'autre » est une clé de lecture pour comprendre Astérix, Nicolas Rouvière?
Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que Goscinny et Uderzo sont deux enfants de l'immigration. Uderzo est le fils d'un immigré italien, ouvrier ébéniste, qui s'est installé en France en 1922. René Goscinny est issu d'une famille d'origine juive. Son père, juif polonais, fils de rabbin, ingénieur chimiste installé à Paris, sa mère d'origine juive ukrainienne. Et ils ont du coup un regard décentré sur la société française. Ils ont été tous les deux en proie à des phénomènes de racisme. Ils ont grandi dans un contexte qui est celui de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que tout le mouvement d'Astérix, c'est vraiment un mouvement vers l'autre, vers l'altérité, pour s'affranchir des représentations établies sur le grand adversaire que peut constituer tel ou tel voisin de la France, ou qui pourrait donc représenter un ennemi, une menace. Donc,
je pense que c'est quand même nécessaire de marquer un temps d'arrêt pour souligner que celui qui est le héros national en France et aux yeux de l'étranger est le fils de deux pères, donc d'un couple homosexuel, dont l'un était, comme vous l'avez rappelé, un immigré de fraîche date, le père d'Albert Uderzo, qui a toute sa vie a parlé un très très médiocre français avec un accent épouvantable, et dont l'autre est un juif mi-polonais, mi-ukrainien, et d'ailleurs élevé à Buenos Aires, puis à New York. Il me semblait que c'était une façon de souhaiter une bonne année à M. Guéant que de rappeler cette vérité première. Sur la façon dont ils ont essayé de sortir de la marginalisation, c'est peut-être le mot est un peu fort, enfin dans laquelle ils se sont trouvés. C'est quand même pas tout à fait la même. Uderzo est quelqu'un qui a vécu en France, qui a été élevé en France. Goscinny, non, il ne vient que très tard. Il vient pour faire son service militaire, si je me souviens bien. Il a passé 20 ans quand il vient en France, quand il vient vivre en France. Il est élevé deux ou trois premières années de sa vie en France, puis ils partent pour Buenos Aires, puis de Buenos Aires, ils vont à New York, où il est. Alors, dans les deux cas, il est dans un lycée français, donc il parle le français depuis toujours. Mais dans des contextes qui sont extrêmement différents. Il est plus extérieur que ne l'est Uderzo.
Oui, il ne connaît la France que par des voyages durant les vacances avec le grand paquebot transatlantique pour aller dans les Deux-Sèvres, etc., faire du tourisme ou retrouver des membres de sa famille. Mais il est vraiment pétri de culture française. Il est donc scolarisé au lycée français de Buenos Aires. Il est francophile, extrêmement attentif à l'actualité internationale. Déjà politisé très tôt, son père adhère au comité de Gaulle dès 1940. Il pense à devancer l'appel et s'engager pour aller combattre sur le continent. Donc voilà, il est vraiment, son imaginaire est tout entier orienté vers la culture française, mais avec un recul qui effectivement le conduit à idéaliser parfois un petit peu. Il dit qu'il y a une image très romantique de la France.
Max Gallo ?
Oui, d'abord, je vous rappelle que je m'appelle Gallo, c'est-à-dire Gaulois. Dans l'Empire romain, tous les Celtes étaient dénommés Gallo. Je suis donc
Nous
un
savons,
Gaulois.
Max, que la seule chose que vous craignez, c'est que le ciel vous tombe sur la tête.
Ce matin, Max s'est laissé pousser la moustache, il est venu avec un
casque. Non, mais je dis ça, c'est important, d'autant, et je suis très heureux que l'entretien avec Philippe Meyer ait commencé, de Nicolas Rouvière avec Philippe Meyer ait commencé de cette manière, parce qu'il y avait une phrase qui m'avait arrêté dans votre introduction, votre livre. Au regard d'une telle histoire commune, l'histoire de Uderzo et de Goscinny, on comprend combien la parodie des Gaulois dans Astérix n'a rien à voir avec une quelconque démonstration de nationalisme ou de chauvinisme. Comme si une œuvre devait être jugée et appréciée au départ par la biographie intellectuelle particulière des auteurs. Moi, j'ai vécu dans le sud-est de la France, je connais très bien le sud-est de la France, je peux vous dire qu'une grande partie des électeurs du Front National et des cadres du Front National sont des fils de l'immigration italienne. Certains sont devenus maires, certains ont joué un rôle important, ce qui veut dire que juger, c'est très important. Moi, Uderzo, évidemment, je me reconnais comme un Rital, j'ai subi moi aussi ce qu'un Rital peut subir dans les années 30, enfin ou dans les années 40 surtout, quand l'Italie en plus a fait la guerre, a occupé Nice, etc. Donc je ne nie pas l'importance des déterminations d'origine. Et je reconnais que ces deux biographies me vont droit au cœur et que ce sont des gens que je regrette de ne pas avoir rencontrés parce que je les aime simplement sur leur biographie. Mais de là en conclure que cette biographie conduit à la négation du nationalisme, à l'impossibilité d'un jugement, je suis évidemment contre cette identification parce que je crois qu'une œuvre se juge non pas sur la biographie des auteurs, elle est éclairante, mais se juge même sur leurs intentions, mais sur ce qu'elle contient, sur ce qu'elle déroule. Et il y a eu sur cette antenne Michel Serres, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, qui est un bon analyste, original, qui a lancé une diatribe contre précisément Astérix, en disant que c'était le nationalisme, la drogue, la potion magique, etc. Et je dois reconnaître que quand je lis votre livre. J'ai du mal d'ailleurs avec cette façon de déconstruire, d'idéologiser un récit qui d'abord veut être comique, veut se vendre. Les auteurs, c'était ça leur projet, c'était l'humour, c'était se vendre, et vendre leur livre, et leur succès mondial est tout à fait important. Et j'ai donc du mal avec votre approche, parce que je crois qu'en effet, il me semble que vous n'insistez pas sur le fait que, quelles que soient les péripéties arrivant à Astérix et à Obélix, quelles que soient les armées qui sont en face d'eux, la taille des légions, César lui-même, c'est toujours le petit village gaulois qui gagne. C'est-à-dire pas seulement les petits contre les gros, ce qui serait une vision universaliste, anarchisante, mais sympathique, mais vraiment l'enracinement gaulois, ce petit village qui est peut-être dû à un village réel qui a résisté longtemps à César, qui s'appelle Uxello Dunum, qui était dans le sud-ouest de la France, dans les Pyrénées. Et donc, je crois qu'on pourrait très bien lire les livres d'Astérix avec un regard qui décèlerait le nationalisme, l'archaïsme, tous les travers qu'un fils d'immigré reproche en effet à ses Français. Et en même temps, je suis évidemment convaincu que tout fils d'immigré est schizophrène, c'est-à-dire qu'il est à la fois très lucide quant à la culture dans laquelle il se trouve et en même temps tout à fait disposé à la défendre jusqu'à la mort. C'est arrivé à de très nombreux entre eux.
Nicolas Rouvier.
Donc je réponds sur le premier point, à savoir le déterminisme biographique qui conduirait à...
C'est votre phrase.
Oui, mais il faut la lire comme une annonce de la thèse à défendre et non pas comme l'argument unique qui va montrer en quoi tout le mouvement d'Astérix conduit justement à se moquer de l'ethnocentrisme, du chauvinisme, etc. Donc simplement une phrase d'annonce, et je partage totalement votre point de vue, et sur un plan méthodologique, jamais je ne réduirais l'analyse d'une œuvre à un déterminisme biographique.
J'imagine.
Voilà, premier point. Ensuite, concernant le village gaulois, évidemment que c'est la victoire du petit sur le fort, mais il ne faut pas réduire le village gaulois à une sorte, si vous voulez, d'utopie pétainiste du retour à la terre qui serait...
Je vous interromps une seconde, mais est-ce que vous ne le réduisez pas à un moment donné à une cour de récréation ?
Oui, alors j'aimerais justement développer ce point-là, justement. Car le village gaulois, effectivement, d'abord il faut le lire comme la modélisation d'une petite république en miniature. Dans Astérix coexistent plusieurs régimes politiques. Donc un empire englobant, l'empire romain, expansionniste, qui quadrille un territoire, qui l'administre, avec à sa tête un dictateur, donc un système autocratique. Il y a différentes sociétés barbares périphériques, et il y a ce village qui représente une sorte de petite démocratie en miniature, avec des apparences totalement anarchiques, hein, des bagarres homériques qui ponctuent la vie du village, etc. Donc il faut d'abord le lire ainsi, comme une petite république laïque en miniature, avec un conseil de villageois, une école, le principe de la raison et de la science, un druide qui pourrait presque être une figure de philosophe laïque, hein, et de scientifique. Et il se trouve que dans ce village gaulois, qui a ses garde-fous, qui a son principe de raison et de mesure, eh bien, il y a une utopie du vivre ensemble et qui est ouverte sur le monde. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand les Gaulois veulent s'inscrire aux Jeux Olympiques, ça ne leur pose absolument aucun problème de se dire romains pour l'occasion. Hein. Ils font un petit peu fi des étiquettes. Eh bien, pourquoi pas, puisque finalement, nous sommes... La Gaule est conquise par César, pourquoi ne pas se dire romain et s'inscrire également au titre de cette représentation aux Jeux Olympiques. Il y a d'autres éléments. Les Gaulois ne cherchent pas à libérer la Gaule tout entière. Ils pourraient le faire avec la potion magique qu'ils ont à leur disposition. Mais ça n'est pas leur objet. Ils sont là surtout pour préserver, on va dire, l'honneur de cette petite enclave. La Gaule n'a pas été conquise entièrement par César. Et donc, l'honneur est sauf. Et tout se passe comme si, finalement... symboliquement, la Gaule avait encore son espace de liberté et son intégrité. Donc, moi, je suis prêt à défendre une lecture sérieuse d'Astérix, et non pas simplement à le réduire à une série commerciale destinée tout d'abord à amuser. Bien sûr que c'est ça, bien sûr qu'on cherche tout d'abord à amuser le public, mais il y a des implications politiques très importantes dans cette série que je pourrais développer en lien avec la collaboration, en lien avec des tournants dans la mémoire collective des Français, qui va, j'espère, renouveler cette lecture.
Encore une petite seconde. Vous ne craignez pas que votre lecture est tellement idéologique, tellement historique, et par ce côté-là, elle me séduit. Je veux dire, elle est subtile, les rapprochements, les éclairages sont tout à fait intéressants. Mais vous ne craignez pas que vous projetiez votre regard, votre propre utopie sur l'œuvre, ce qui arrive. Je vois par exemple le fameux film qui s'appelle Les Intouchables, qui en France est considéré comme un chef-d'œuvre de précisément la coexistence, et vu par la totalité, ce que j'ai lu en tout cas, la totalité de la critique cinématographique aux États-Unis comme un film raciste. Parce qu'on projette, évidemment, sur l'objet à analyser, quand on a l'idéologie au bord des yeux, on projette évidemment sa vision. Et je pense que c'est... Moi, ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est que j'y vois votre positionnement idéologique personnel d'abord. Après, celui d'Astérix.
Nicolas Rouvière.
Alors, bon, je crois qu'il faut se recentrer sur la question du chauvinisme et donc du patriotisme, etc., puisque c'était le point de discorde initial. Je crois que le mécanisme de l'humour est très complexe et fonctionne en plusieurs temps. Dans un premier temps, l'objet des auteurs, évidemment, c'est de flatter une sorte de chauvinisme franco-français autour d'une écriture, d'une histoire qui est réécrite pour le plaisir du lecteur. Autrement dit, Vercingétorix n'a pas déposé ses armes aux pieds de César, mais sur les pieds de César, qui s'en va... à cloche-pied vers d'autres conquêtes. La paix romaine, finalement, eh ben, c'est plutôt une paix gauloise, puisqu'on voit les Romains qui vaquent à des occupations et à des loisirs qui n'ont rien de militaire, parce qu'ils ont totalement accepté la domination de ce petit village d'irréductibles. Donc c'est plutôt une paix gauloise, de laisser-aller, de dilettantisme, etc., qui s'instaure. La fameuse anarchie des Gaulois, leurs querelles incessantes qui sont censées dans l'historiographie être à l'origine de leur défaite contre César, eh bien ici est renversée en une sorte de force roborative qui vient à bout de la légion la mieux organisée. Donc tous ces stéréotypes scolaires sont renversés et évidemment ça flatte le chauvinisme du lecteur, ça crée un univers qu'on a plaisir à habiter, ça c'est un premier temps. Mais dans un deuxième temps, il y a tout ce qui relève de l'imagerie de la France telle qu'elle se rêve, avec un Marseille qui ressemble à l'univers de Pagnol, le vieux port, etc., les chansons françaises, la gastronomie, les plaisirs de la chair... Tout cet univers-là se double d'une critique sociale qui est importante et également d'un renversement d'un certain nombre de stéréotypes que l'on peut nourrir sur la France. Donc je crois que le comique est complexe, il fonctionne à plusieurs niveaux, avec plusieurs couches superposées. Et évidemment qu'il y a des éléments de chauvinisme, mais il ne faut pas réduire Astérix à cela. C'est là le point de départ pour ensuite découvrir quel est le mouvement de l'œuvre tout entière.
Thierry Pêche.
Oui, d'abord, bon, moi je ne partage pas l'approche de Max. Je retrouve dans votre lecture d'Astérix quantité de sentiments, d'impressions qui, sans leur avoir donné un nom, ont imprégné ma lecture des albums depuis tout petit, comme beaucoup d'autres. Et je voudrais rendre hommage aux efforts que vous faites pour faire revivre tout le patrimoine, tout le matériel de représentation qui est sous-jacent à l'écriture de Goscinny et Uderzo, les souvenirs de littérature de jeunesse, de livres scolaires, les souvenirs de l'occupation aussi qui sont là, sous-jacents, les souvenirs du siècle, et puis les mutations contemporaines d'une société qui est projetée dans un élan de modernisation très rapide, dans les années 60 en particulier, et qui porte sur cette modernisation un regard ambigu, un regard à la fois participatif et un regard résistant aussi. Et je trouve que vous avez redonné à Astérix toute son épaisseur sociologique, culturelle, historique. Et ça, c'est un point fort, je trouve, de vos livres. Mais surtout, je voudrais revenir au début de la discussion, c'est-à-dire « moi, c'est l'autre », cette fameuse formule que vous reprenez et que vous faites parler, et qui n'est pas du tout, je pense, un regard déterminé par la biographie, je pense que c'est pas ça. « Moi, c'est l'autre », l'autre, c'est pas simplement l'étranger, c'est aussi le Gaulois et le Français, parce qu'il y a une distance critique dans le regard porté sur la Gaule et sur la France qui fait l'intérêt d'Astérix. Et je voudrais dire ici mon sentiment, c'est-à-dire je pense que l'identité est toujours un problème, une question, et pas une affirmation, c'est pas une réponse. Bon. Et Astérix se déploie dans ce que Mona Ouzouf appelait la composition française, entre deux comment dire, de fil toujours difficile à nouer. Le fil de l'individualisme jacobin, de la petite république, où on est citoyen avant d'être quoi que ce soit d'autre, qui est la grande affirmation jacobine. Finalement, la société, la nation n'est qu'une association volontaire d'individus autonomes qui sont prêts à réaffirmer leurs droits, qui ont passé contrat entre eux. Enfin, il y a un côté démocratie jacobine dans le petit village gaulois. Mais de l'autre côté aussi, un fil culturel, un fil historique, collectif. Et on le voit dans le Tour de Gaulle, il y a beaucoup de couleurs locales, il y a beaucoup de particularismes, il y a beaucoup de singularités. Toute la difficulté de l'identité française est de nouer ces deux fils et de les renouer à chaque fois qu'on essaye de se dire, de se formuler. Et je voudrais votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce rapprochement entre vos travaux, la lecture que vous faites d'Astérix, et puis ce problème de l'identité française prise toujours entre héritage culturel et affirmation jacobine républicaine, disons.
Nicolas Rouvière.
Oui, vous faisiez référence au Tour de Gaulle, qui renvoie aussi au Tour de France par deux enfants, où on passe en revue tous les folklorismes régionaux et où on recrée cette image partagée d'une France un petit peu idéalisée. Je crois qu'effectivement, c'est l'un des fils qui tient le lecteur, c'est-à-dire la reconstitution de cette imagerie, de ces valeurs et de ces stéréotypes partagés. Et puis de l'autre, il y a la référence à un socle de valeurs, qui est un socle de valeurs républicain, démocratique, où sont exaltées les valeurs de la résistance, hommage à Jean Moulin, par exemple, lorsque les Gaulois traversent la ville de Lugdunum, et la défense d'un principe d'indépendance, de lutte contre les uniformisations forcées, et de défense des libertés collectives et individuelles. Et on voit bien que tout ça se noue à travers un pacte, effectivement, un pacte politique, à la fois au sein de l'enclave gauloise, puisque le mandat du chef est remis en jeu et qu'il faut réaffirmer les valeurs communes, mais également à travers le positionnement du village à l'égard des voisins. Et donc, il y a une sorte d'international, si vous voulez, qui se crée entre différentes communautés qui partagent ce socle de valeurs communes. On peut nouer donc des contacts avec les voisins bretons, avec un village hispanique qui résiste, avec des individus en Helvétie qui font fi du principe de neutralité et qui vont s'engager aux côtés des Gaulois, etc. Et en arrière-plan, donc c'est pour ça que j'évoquais aussi la cour de récréation, parce que c'est une cour de récréation ouverte sur le monde. Et les copains, on peut les inviter à un grand anniversaire pour fêter Gergovie, où tout le monde finalement partage les valeurs de Gergovie, pas seulement les Gaulois, mais aussi voilà, les Ibères et d'autres.
Chaque année, les Ibères sont plus rudes.
Voilà. Donc voilà, ce sont effectivement les deux fils qu'il faut tenir et qu'il faut nouer. Et moi, j'aime beaucoup citer un album comme Le Bouclier Arverne, parce que là, il y a un enjeu politique de mémoire collective qui est très fort dans cet album. Qui peut un petit peu situer le discours de fond qu'il y a dans Astérix. C'est un album qui commence par les crises de foi d'Abrara Coursix. Donc Abrara Coursix est malade, il est alité. Et où est-ce que le druide l'envoie en cure? Il l'envoie en cure à Vichy. Et donc, évidemment, pour les bains, la cure thermale, etc. Sauf que on s'aperçoit que dans cet album, Abrara Coursix souffre d'une autre maladie. Et c'est une maladie du refoulement, en l'occurrence la défaite d'Alésia. Et donc, derrière la défaite d'Alésia, il y a une autre défaite plus proche dans l'histoire qui se profile, et on peut penser justement à celle qui a conduit à l'avènement du régime de Vichy. Et tout le mouvement de l'album, justement, c'est de retrouver le bouclier de Vercingétorix qui a disparu au soir de la défaite, qui est passé entre les mains d'un marchand de vin et charbon auvergnat, et qui, en fait, est taraudé totalement par la culpabilité pour ce bouclier, l'avoir fait passer à quelqu'un d'autre, premier venu, qui lui a réclamé, et ne pas avoir repris, lui, le flambeau de la résistance. Et là, on s'aperçoit, l'album sort en 1968. En 1968, c'est aussi l'année où est réalisé Le Chagrin et la Pitié par Marcel Ophuls, qui se situe à Clermont-Ferrand, exactement comme l'intrigue de l'album se situe à Némésos. Donc il y a trois villes, il y a Vichy, Némésos, et puis Gergovie, le haut lieu de la victoire gauloise, et ces trois villes n'en font qu'une, véritablement. Et c'est l'image de Vichy qui se profile derrière. Et pour situer un petit peu les enjeux politiques qu'il y a dans cette série, il y a deux types de refoulement d'Alésia dans Astérix. Il y a le refoulement de la part du chef Abrara Coursix, qui dit « Alésia est non avenue, Ça n'a pas existé, je ne veux pas en entendre parler, ne me parlez plus d'Alésia. Un petit peu comme le général de Gaulle en 44 dit à Georges Bidault, pourquoi irais-je proclamer la République ? La République n'a jamais cessé d'être, Vichy est nul et non avenu. Donc on n'en parle pas. Et de l'autre côté, donc, il y a une sorte de mythe résistentialiste très gaullien hein, qui vient gonfler le corps politique français, et le corps politique français en souffre. C'est sa maladie. Et donc il doit faire une bonne cure. C'est ça l'enjeu de l'album. Et il y a l'autre refoulement, qui est celui du marchand de vin auvergnat, qui lui souffre de culpabilité pour les compromissions, les petites lâchetés, etc. Et à la fin, à l'issue de sa cure, il y a un grand défilé sur le bouclier, un triomphe fait par Abrara Coursil, parce qu'on découvre à la fin de l'aventure que son bouclier, c'est précisément celui de Vercingétorix qui a été retrouvé. Donc finalement, il refonde son pouvoir, sa légitimité et le socle de valeur de la résistance qui est à l'origine de l'utopie gauloise. Donc là, on rejoint totalement l'axe politique, le pacte politique autour de ces valeurs. Et tout le monde s'en trouve réconcilié, le pouvoir s'en trouve amaigri, il est plus modeste, mais il est rajeuni, régénéré. Voilà. Et là, on touche à une problématique de fond. Et l'histoire personnelle, pour rejoindre la piste biographique, peut aussi apporter parfois un éclairage, puisque quelqu'un comme Goscinny, qui a vu trois de ses oncles arrêtés par la police française, déportés et décédés à Auschwitz et Pithiviers, avait sans doute quelques raisons d'avoir des griefs contre Vichy. Et il faut se souvenir que le bouclier Arverne, ça renvoie à une formule pétainiste, enfin dans les milieux pétainistes d'après-guerre, De Gaulle l'épée, Pétain le bouclier. Et ça, Pétain le bouclier, pour Goscinny, ça devait passer difficilement.
Éric Leboucher.
Bon, moi j'ai beaucoup de mal avec cette discussion. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal avec Astérix tout court, parce que moi j'en reste tout à fait au premier degré, c'est-à-dire que ça ne me fait pas rire une seule seconde. En gros, les histoires sont convenues, les personnages un peu crétins et les remarques un peu stupides. Ça ne me fait pas plus rire, mais je suis très particulier, que Louis de Funès au cinéma m'a jamais fait rire un quart de seconde. Et donc, du coup, peut-être que je reconnais tout à fait que j'ai tort, mais quand il y a ce deuxième temps, vous le dites toujours, il y a un premier temps et un deuxième temps. Dans le premier temps, il y a donc la glorification de la résistance française avec tout ce que ça représente. Et puis, deuxième temps, la mixité des cultures. C'est tout à fait la thèse de votre livre. Et donc, on fait les deux, mais on fait les deux quand on a un premier temps et un deuxième temps. C'est-à-dire quand on rit dans le premier temps de ces bonnes blagues, qu'en deuxième temps, on rit d'avoir ri de bonnes blagues stupides. Voilà. Et c'est ça que je n'arrive pas à faire. Et donc, je reste tout à fait au premier degré. Mais je reconnais que je suis probablement très minoritaire en France à ne pas rire du tout de ça, parce que moi, et du coup, j'en reste effectivement à une glorification d'une résistance un peu sotte, microscopique, et bloquée, alors que la civilisation romaine est là, et qu'il s'agit de s'y intégrer, au fond, dans la modernité. Et donc, c'est ce que je reproche.
La mondialisation, sens que vous alliez dire dans la mondialisation.
Mais c'était avant, je reconnais que le mot n'existait pas en 60, et donc il est anachronique. Donc, mais c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, d'une façon générale, à la mixité des cultures, et donc je trouve que, au fond, je trouve que ces albums, c'est l'inverse de vous, c'est-à-dire qu'on renforce plus le premier regard de la résistance gauloise contre la modernité que le deuxième. Voilà. Mais je reconnais que je dois être très minoritaire sur ce truc, à cause du fait que je trouve pas drôle les blagues et les noms stupides d'Astérix.
Nicolas Rouvière.
Donc quand les Bretons, à cause du tea time, s'arrêtent à 5 heures et s'interrompent en plein milieu de la bataille contre les Romains, il faut y voir au premier degré le fameux sacro-saint principe du flegme britannique et ne pas en rire au second degré. Quand on a affaire au home sweet home et au concept britannique de privacy, où justement le respect de la petite propriété privée individuelle avec le rocking chair, la femme qui tricote, le mari qui lit le temps au coin du feu et qui ne veut surtout pas se mêler des grabuges qui se passent dans la maison d'à côté où les Gaulois sont en train d'intervenir. Est-ce qu'il faut le lire au premier degré? La fameuse fierté ibérique le sentiment de la Honra avec les noms à rallonge, soupe à l'oignon et crouton, des Ibères, etc. Est-ce qu'il faut le lire au premier degré comme une critique et une moquerie à l'égard du voisin? La ponctualité helvétique ou le sens de la propreté voilà, chez le fameux banquier.
Le secret banquier.
Petit Suix. Voilà, alors là, le recel aussi des biens, hein, ouais. Spolié par l'occupant dans les.
Non, mais moi, je reconnais que je suis mauvais public, donc ouais. Très bien. Mais au total, quand même, vous pensez que les albums d'Astérix participent de la mixité des cultures?
Alors, moi, je voudrais revenir sur le terme de mixité, parce que je n'emploie pas cette expression, et à mon avis, elle ne cadre pas très bien avec la série. Je crois que le cadre de référence dans Astérix, c'est la nation. Ça reste la nation, avec la carte de la France ou de la Gaule, identifiée à la France de façon fantasmée dès les pages de garde. Et on trouve d'ailleurs chez Goscinny, en particulier dans les Dingos dossiers avec Gottlieb, une satire des mythes reconstruits du régionalisme, des folklores alsaciens, picards, bretons, etc. Pour quelqu'un qui a vécu les 17 premières années de sa vie à Buenos Aires et passé ensuite 6 années à New York, voilà, je crois que autour de la mixité sociale, la mixité pardon, culturelle, je crois qu'il faut garder que le cadre de référence, ça reste le cadre national, mais qu'on s'inscrit dans une époque qui est celle de Gaulle Adenauer, c'est-à-dire c'est l'Europe des nations. Et donc il y a un mouvement vers l'autre, vers les autres nations, avec une logique de fraternité, de partage de valeurs communes. Et dans ce contexte-là, je crois que le cadre de référence, ça serait une Europe plutôt confédérale à cette époque-là. Donc on n'est pas dans une sorte de melting pot, de mixité culturelle, etc. Attention, ça n'est pas ça.
Alors, moi, je voudrais vous interroger sur deux choses. La première, il me semble qu'en effet, il y a un très fort gaullisme chez Goscinny et que ce gaullisme d'Amérique latine, enfin, il y avait en Amérique latine, notamment en Argentine et au Chili, des colonies françaises que la famille Goscinny n'a pas pu ne pas côtoyer, puisque René Goscinny était au lycée franco-argentin de Buenos Aires, et qui a été une forme d'adhésion au gaullisme très, très immédiate. Alors, ça se passe pas en Argentine, ça se passe juste à côté au Chili, mais à Concepción, il y avait déjà eu, descendant d'une colonie de Basques, il y avait déjà eu au moment de la guerre de 14, il y avait plus de 150 garçons qui étaient allés s'engager alors que rien ne les y obligeait, et plus de 50 qui sont restés sur le champ de bataille. Et en 1942, les Français de Concepción, qui n'est pas exactement la plus grande métropole d'Amérique latine, ont créé le premier lycée français Charles de Gaulle dans ce tout petit bled au sud de Santiago. L'image de Gaulle en Amérique latine a eu quelque chose de particulièrement fort, et il me semble qu'on en voit des traces chez Goscinny. Mais la question que je voulais vous poser, si vous voulez bien réagir à cette première assertion, c'est est-ce que vous pourriez rappeler quand même ce qu'était la bande dessinée et les journaux pour jeunes gens au moment où paraît Astérix, et qu'elle a aussi été, parce que vous venez d'évoquer les dingos dossiers que Goscinny avait fait avec Gottlieb, qui est un dessinateur plus, comment on peut dire, plus cru, plus cruel, plus tranchant que ne l'est Uderzo. Il me semble que toute la diversité des collaborations de Goscinny contribue aussi à éclairer ce qu'on peut trouver dans Astérix.
Oui, alors, il faut rappeler le contexte de la naissance du journal Pilote. Hein, c'est-à-dire que dans un contexte où la presse illustrée est jugée envahie ou colonisée par certains milieux par les strips et les comics américains, il y a un projet qui naît chez le directeur publicitaire de L'Oréal Montsavon de créer un journal avec des publications illustrées françaises. Et donc, il faut faire dans le folklore français. Donc, il y a déjà un mouvement de prise d'indépendance à l'origine de la création d'Astérix. Astérix, la petite étoile, l'anti-superstar par opposition aux super-héros des comics américains. Donc, on est dans quelque chose qui est assez neuf par rapport au contexte de la presse illustrée, où là, on va avoir une production franco-belge qui va s'affirmer, qui va être en plein effort dans le sillage de la loi de 49 sur la protection des publications destinées à la jeunesse. On a pu interpréter comme une loi de censure. Hein. Ça, c'est un premier pôle. Et par ailleurs, Goscinny a une influence majeure, c'est celle du journal Mad, puisqu'à New York, il a rencontré Harvey Kruttman, Will Elder, et donc qu'il a en référence et pour modèle ce nouvel esprit satirique, comique qu'il veut importer en France. Donc ça, je crois que ce sont deux points majeurs à connaître pour voir la veine que va tracer Goscinny dans la presse illustrée.
Thierry Pêche.
Non, je voudrais donner une occasion à Eric d'entrer dans l'univers.
De rire.
Oui, de rire un peu et d'entrer dans l'univers d'Astérix. Je crois qu'il commet une impropriété dans sa lecture et je voudrais le jugement de Nicolas Rouvière sur ce point. Rome n'est pas les États-Unis et la mondialisation. Rome, c'est aussi un grand état bureaucratique moderne, comme il est en train de s'en construire un en France dans les années 50 et 60. Je vous rappelle que lorsque dans Obélix et compagnie, César convoque un technocrate surdoué, il le nomme, il saisit l'occasion pour dire que ce technocrate sort de sa nouvelle école d'affranchis, c'est un néarque. Donc Rome, c'est aussi Paris, d'une certaine manière. Alors la place de Rome dans la série est assez ambiguë à mes yeux. C'est à la fois l'envahisseur, l'occupant, c'est en même temps l'état bureaucratique administratif gaulliste qui se met en place, gaullien, disons. Comment vous qualifieriez la place de Rome ?
Je crois que c'est d'abord une figure de l'état moderne, avec ses préfets, avec ses grandes administrations, avec sa bureaucratie. Il y a parfois la tentation de faire des lectures à clé en se disant, puisqu'il y a l'aigle germanique représenté sur la voile d'un navire romain, on va dire que c'est l'empire englobant, l'impérialisme américain qui essaye de dévorer en quelque sorte la culture gauloise. Mais ça ne tient pas longtemps, ce ne sont que quelques références. C'est plutôt derrière Rome, il faut voir une image de la grande puissance dominante culturellement. Peut-être qu'on peut y voir une image des États-Unis, mais ça n'est pas là l'essentiel. Je crois que Rome, c'est une représentation de l'État moderne. Et derrière la figure de César, il faut voir celle de Napoléon. Et donc une paternité qui est problématique pour la démocratie. C'est-à-dire que César est respecté en tant que grand homme d'État, en tant que figure historique, en tant que législateur. Mais en même temps, il est combattu en tant qu'autocrate. Et ça correspond aussi à l'ambiguïté de l'image de Napoléon dans l'historiographie française. Enfin, je ne voudrais pas...
Il y a
Max Gallo, donc je pense qu'il aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Mais donc il y a cette paternité problématique et le fait qu'il y a un accaparement du pouvoir, des sénateurs qui sont affaiblis, des oligarques, et un lien avec le peuple qui est un lien démagogique à travers les jeux du cirque et à travers les triomphes. Donc un lien direct populiste qui se met en place. Et les Gaulois, ce qui est très intéressant, c'est que partout où ils passent, ils rétablissent la distinction entre le pouvoir comme instance symbolique et le pouvoir comme organe réel. Et donc Rome, et là j'utilise les concepts de Ernst Kantorowicz pour retrouver les grands symboles que sont l'impôt, l'effigie du souverain et l'universitas, la figure de Rome en tant qu'entité politique, métacorps abstrait indépendant de la figure du souverain au pouvoir, pour justement montrer combien les Gaulois rétablissent Rome en tant qu'entité symbolique irréductible à l'un ou l'autre de ses gouvernants qui ne sont que de passage. Et ça, c'est un point essentiel et ça rejoint un principe de la séparation des pouvoirs qui est l'une des valeurs fortes défendues par la série.
Max Gallo.
Oui, heureusement que Uderzo et Goscinny n'avaient pas dans la tête tout ce que vous venez de dire, devant lequel je m'incline parce que c'est la science, c'est le savoir, c'est l'analyse historique, sociologique des grandes tendances. Je crois que Goscinny et Uderzo, je fais mon hypothèse aussi, sont effectivement deux immigrés, deux fils d'immigrés, avec des histoires donc de schizophrènes, puisqu'en effet, comme je l'ai dit, être immigré, même à la deuxième génération, c'est être schizophrène, avoir nécessairement, congénitalement, génétiquement le pied dans deux cultures, et pour Goscinny, c'était plus que deux cultures, vous êtes trois ou quatre au moins. Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire ? Nous avons affaire à deux individus très doués, qui ont besoin de travailler, qui ont envie, qui sont des artistes dans leur genre, et qui sont ouverts aux questions politiques, ouverts aux questions politiques du bain politique dans lequel ils baignent. Et effectivement, le reflet spontané de leur histoire personnelle, de leur quotidienneté dans cette France, puisque Astérix commence en 1960, c'est-à-dire...
59,
c'est-à-dire précisément avec l'arrivée de la Ve République, de Gaulle, etc. Donc, et qui reflète dans leurs propos, dans leur manière de dessiner, car moi je trouve, par exemple, je n'ai pas vu, mais peut-être j'ai lu trop vite, je n'ai pas vu dans votre livre une analyse de la mise en place des vignettes, de la typographie, comment le dessin et n'est pas simplement un dessin. Il y a en même temps toute la typographie qui vient scander telle ou telle proposition. Et je trouve que ça, ce sont des ressorts qui sont intéressants quand on analyse une œuvre, qu'on ne vise pas simplement à en dévoiler les supposés idéologiques. Je crois qu'il y a donc une sensibilité politique ouverte qu'on qualifierait de gaulliste social pour Goscinny, gaulliste social.
Malaisiste, on va dire, pour Goscinny, ouais, et pour Uderzo, indéterminé.
Mais rechercher, très franchement, rechercher dans les bandes dessinées, comme vous le faites avec talent, et c'est vous qu'il faut juger de ce point de vue-là, je m'incline devant votre subtilité et votre curiosité idéologique, reflétant la vôtre propre sur les dessins, rechercher là une histoire de la France contemporaine, une histoire de la résistance, une histoire de l'État. Ça me paraît vraiment, vraiment être aussi discutable que de vouloir analyser la résistance française à travers la grande vadrouille où Papy fait de la résistance, qui sont d'une certaine manière, la version cinématographique d'une certaine forme de sensibilité. Une remarque historique, celle-là. Vous parlez de Napoléon Ier et de César. Vous savez sûrement que c'est Napoléon III qui a remis les Gaulois à la mode, c'est lui qui a organisé des fouilles, qui a identifié Alésia. En dépit des résistances, encore aujourd'hui, il y a des gens qui vous prétendent que Alésia, c'est pas là où c'est, mais c'est dans le Jura plutôt que dans le Morvan. C'est lui qui a écrit un livre sur Jules César, Napoléon III, et qui recherchait précisément à se construire une légitimité dans les Gaulois. Aujourd'hui, nous avons sur les Gaulois deux types de réflexions. La première, c'est que par bien des côtés, c'était des barbares qui accrochaient à leur hutte des crânes d'ennemis vaincus. Il y a donc tout cet aspect-là. Par d'autre côté, ils avaient bâti réellement une civilisation. Et le dernier côté, c'est qu'il n'y a plus de Gaulois, il y a des Gallo-Romains. C'est-à-dire que la collaboration est arrivée à la fusion et les Gaulois ont été d'excellents soldats dans les armées romaines.
C'est très décoratif, cavalier. Les crânes d'ennemis.
Juste un petit point, Napoléon Ier a quand même créé l'Académie celtique en 1804, qui a été ensuite dissoute en 1815.
Mais Napoléon III a été l'homme décisif.
Mais évidemment que Napoléon III, effectivement, a essayé de s'emparer de la figure de César. Simplement, dans Astérix, les références ne sont pas Napoléon III, c'est un Napoléon Ier.
Et je peux vous poser une question, je vais vous lire, parce que ça me paraît une contradiction avec ce que vous dites. L'utopie de référence n'est plus la nation, souveraine en son empire, mais la cour de récréation de l'école de la République. Alors d'un côté, vous nous dites, c'est la base, c'est la nation, je veux bien l'admettre. De l'autre côté, vous affirmez que c'est plus du tout une utopie, mais que c'est plutôt la cour de récréation et la civilisation.
Nicolas Rouvier.
Non, je crois qu'en fait, Astérix inaugure une nouvelle période de la mémoire collective. C'est-à-dire, quand je dis que ce n'est plus la nation souveraine en son empire, il faut comprendre la nation à l'âge des impérialismes, la nation colonisatrice, la nation qui, peut-être au détriment du principe de civilisation, a voulu avoir une sorte d'hégémonie sur le principe de civilisation. Hein, on pourrait faire un historique des liens entre nation et civilisation. On peut dire que bon, la nation de civilisation, elle naît au milieu du XVIIIe siècle et qu'il y a une sorte de concurrence positive entre les nations en Europe pour aller vers un idéal de progrès, mais qu'à partir du milieu du XIXe siècle, il y a une sorte de perte du principe de civilisation au profit des nations qui veulent avoir un droit d'exclusivité sur un modèle civilisationnel.
Dans les écoles françaises en Afrique noire, on commençait les cours par nos ancêtres, les Gaulois. Ça fait rire, mais c'est-à-dire qu'on retrouve dans la colonisation la vocation tordue, illusoire, la vocation civilisatrice.
Alors, je crois que Astérix, ce n'est plus la France, justement, souveraine dans son empire, avec ses grandes figures, Bugeaud, Lyautey, etc., qui ont habité l'imaginaire scolaire. C'est maintenant une France qui résiste, une France anti-impérialiste, gaulo-tiers-mondiste, on va dire, non alignée. Et dans ce cadre-là, moi, je pousserais davantage, en tout cas pour Goscinny, la paternité vers une sensibilité mendésienne. Et effectivement, il y a ces valeurs d'une utopie villageoise, républicaine, très empreinte des valeurs de la Troisième République, du radicalisme de la Troisième République, avec l'école et effectivement cette cour de récréation, bon enfant, ouverte sur le monde.
Thierry Pêche.
Oui, moi, la comparaison entre Astérix et la Grande Vadrouille me reste un peu en travers de la gorge. J'ai une estime beaucoup plus haute pour Astérix, pour la Grande Vadrouille, qui me fait beaucoup rire aussi, mais de manière. Mais Eric, je sais, mais vous vous soignerez bientôt.
C'est la dernière fois que Eric Le Boucher a ri, c'était un jeudi en 1974, et c'était par erreur.
Bon, non, il rit, là, présentement, je le vois.
Moi, je l'ai vu rire très souvent.
Alors, il
a le rire savant, c'est
Revenons, de le faire. Revenons à Astérix un instant. Le rire d'Astérix est plus profond, me semble-t-il, que le rire de Louis de Funès ou de grands corps comiques du cinéma. Il est plus profond parce qu'il est parodique, et c'est ce que vous développez, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur des réminiscences et des caricatures de souvenirs ou d'objets, de représentations communes, d'énormément de lieux communs. Bon. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, alors pour illustrer quand même, parce qu'on en a assez peu parlé, cette série, elle se déploie à un moment de modernisation, de transformation sociale absolument fantastique, où les Français découvrent le tourisme, les HLM, la prospection immobilière, le libéralisme économique avec Obélix et compagnie, qui arrive un peu plus tard. Bon, bref, ça raconte quand même les transformations de la société française avec une lucidité et un soin du détail qu'on sous-estime en général. Mais quand on vous lit, on voit tout ça remonter à la surface de manière tout à fait évidente. Quand on lit Nicolas Rouvière, on comprend beaucoup mieux ce qu'on vit en lisant Astérix. Et c'est ça qui m'intéresse. Et la parodie, qui est le ressort quand même de la force comique d'Astérix, le problème qu'elle pose aujourd'hui, c'est que ce patrimoine de représentation et de lieux communs, il a vieilli. Notre génération ou nos générations là autour de la table peuvent en rire. Est-ce que nos enfants en riront? C'est moins sûr. Ou ils en riront autrement. La question que je me pose, si vous laissez, est-ce que ça peut fonctionner encore Astérix pour des gens du 21e siècle?
Nicolas Rouvière.
Alors certains stéréotypes évidemment vieillissent, les références partagées se perdent. Et ça posera peut-être la question de l'adaptation future des albums. Je ne sais pas, dans une perspective commerciale, quelle sera la politique de Hachette après l'ère Uderzo. Mais je crois qu'il y a d'autres couches qu'on n'a pas évoquées, qui sont encore plus profondes dans Astérix, qui font que la série est véritablement universelle à tous les niveaux. Et là, il faudrait évoquer ce que recoupe la potion magique, ce que recoupe la chute d'Obélix dans la marmite, le lien au corps. Par exemple, puisque je crois Michel Serres avait évoqué la violence insupportable dans Astérix, les corps sont des images, ils sont complètement déréalisés. Quand ils volent dans les airs, ils font des figures géométriques, des cercles, des ogives, etc. Et donc toute cette pulsion qui se développe fait la joie des enfants, parce que justement c'est une sorte d'exutoire. Et fondamentalement, je trouve ça totalement non-violent justement et tout à fait sain. On pourrait évoquer toute une série de thématiques dans le village gaulois, autour de la figure du bouc émissaire, par exemple, avec le bar d'assurance Tourix qui est bâillonné, l'anti-élitisme intrinsèque à cette communauté, avec le chef qui tombe de son bouclier. Il y a là vraiment des choses qui font que, quels que soient les stéréotypes, même s'ils vieillissent, même si la culture de référence tend à se perdre, il y a quelque chose encore qui passe sur le socle de valeur de la série.
Il y a une perte d'épaisseur, tout de même. On lit plus dans les livres d'histoire nos ancêtres les Gaulois.
Sans compter tout ce qu'il peut y avoir comme jeu de mots latin ou faisant référence à du latin, ou eux aussi, les pages roses du dictionnaire Larousse, je ne sais même plus si le dictionnaire Larousse a encore des pages roses, d'ailleurs je n'en ai pas acheté suffisamment récemment, mais là il y a en effet quelque chose qui nous permettait aussi, quand on était lecteur d'Astérix et lycéen, qui permettait aussi de se moquer de ses études, ou de prendre avec le programme du lycée une rafraîchissante et agréable. Et Il y a, il me semble, ce que je ne trouverais pas non plus du tout moi, dans la Grande Vadrouille, il y a une ironie bon enfant, de bonne humeur, dans l'ensemble des moqueries, et Dieu sait s'il y en a, qui sont celles d'Astérix, qui est quelque chose qui, alors là, pour le coup, me paraît avoir complètement déserté l'esprit public, si je me permets, non pas cette émission, au contraire, c'en est le dernier refuge, mais où il ne peut y avoir de critique que définitive, et il ne peut y avoir de débatteur que triomphant, finalement, de quelque chose.
Goscinny avait une ligne directrice pour cela, il disait que il fallait avant tout aimer ses personnages. Et même les personnages négatifs sont d'abord aimés, et c'est la bêtise, la moquerie de la bêtise l'emporte finalement sur les traits de méchanceté.
Max Gallo.
Oui, je crois, vous me faites réfléchir sur cette série Astérix, et c'est le but de votre travail, et de ce point de vue-là, il est très fructueux. Je crois que c'est une époque, ce que reflète Astérix, fondamentalement, c'est une époque de transition. Comme l'a dit Thierry Pêche, on passe d'une France encore rurale à une grande révolution, l'urbanisation, les routes, les voitures, donc il y a ce monde, et à une France qui est encore une France où l'individualisme n'a pas gangréné et détruit tous les rapports humains. C'est une France qui est encore... une France où la collectivité proche, les voisins, mais la collectivité humaine est marquée par des relations humaines et pas simplement enfermée dans l'individualisme. Je crois que c'est ça la grande différence qui devrait apparaître comme presque un témoignage historique sur une période. Moins le détail, je suis moins sensible aux références historiques précises parce que je trouve qu'elles sont traitées de façon... ridicule, pour rien, c'est pour les nuls, et surtout c'est une vision au moment où ceux qui pensent comme beaucoup autour de cette table qu'il faut, la France doit être pleine de repentance, etc., et qui porte Astérix sur le pavois en pensant cela, oublient que la France a été une construction à coups de glaive et à coups d'épée, que la conquête du sud de la France, de l'Occitanie, par le Nord, par les chevaliers du Nord, a été vraiment une conquête, je ne dis pas génocidaire, mais en tout cas très dure. Or, tout cet aspect de la réalité historique, qui est déjà connu, que les historiens essaient de faire passer dans la réalité sans en conclure à la méchanceté française, n'est pas là parce qu'on a, et c'est l'envers positif, on a en effet, comme le disait Philippe, quelque chose de bienveillant finalement, de tendre et de bienveillant.
Même de bonne humeur, je dirais.
De bonne humeur, voilà, c'est celle que je cherchais.
De bonne humeur, c'est parce que la bienveillance suppose au fond un côté un peu gnangnan, tandis que là, non, il y a une bonne humeur, et il y a un goût de faire société aussi, qui finalement l'emporte sur beaucoup de différences, et faire société, me semble-t-il, très largement, vous l'avez dit, avec aussi des étrangers qui ne sont pas d'ici, comme disent quelques personnages, et même qui sont très éloignés, avec lesquels on postule au départ. Il n'y a pas d'héroïsme, mais au fond, c'est la période où, par ailleurs, dans la littérature pour enfants ou pour adolescents, il y a peut-être par réaction à ce qui s'était passé quelques années plus tôt, mais il y a quand même beaucoup de littérature héroïque dans la bande dessinée. Alors, elle ne se passe pas forcément en France, mais enfin, Bug Dany et les pilotes d'avion.
C'est dans le cadre de la guerre de Corée.
C'est plus que adapté dans les journaux de bande dessinée français. Il y a beaucoup d'histoires de vainqueurs. Il y a beaucoup, je ne sais pas, Michel Vaillant, qui est un pilote qui triomphe, y compris de toutes les combines et de toutes les compromissions qu'il peut y avoir autour de lui. Il y avait deux joueurs de tennis, je ne me souviens plus de leur nom, qui eux aussi... Enfin, il est question ce sont des bandes dessinées, je dirais, qui sont sur l'autoroute de l'affirmation de soi et de la victoire. Là, c'est exactement le contraire, et ça donnera précisément, ou ça donne en même temps d'ailleurs, des choses comme la rubrique à braque de Gottlieb et une forme d'ironie et de goût de l'absurde que Goscinny est. Je crois donc Goscinny est très responsable parce qu'il y a aussi dans sa culture tout ce qu'il a pu, jeune homme, là, à ce moment-là, aux États-Unis, voir à travers le cinéma et dont il reprendra, quelquefois même en les copiant, ni plus ni moins, dont il reprendra des gags, soit des gags verbaux, soit des gags visuels, dans Lucky Luke, dont il est aussi le scénariste, et dans d'autres collaborations qu'il peut avoir.
Un mot simplement, pour même poser une question à Nicolas Rouvière, est-ce que vous avez lu ce que pour moi je considère comme un chef-d'œuvre, Spiegelman Maus?
Oui, bien sûr. Bien
qui
sûr.
Pour moi est un chef-d'œuvre de la bande dessinée, en même temps en respect de la réalité et un décalage par rapport à la réalité qui est vraiment du grand art. Je ne sais pas si vous avez lu le Spiegelman et la. Non, ça c'est à lire, parce que sur la comment on traite un événement tragique qui est tout simplement la Shoah avec, en bande dessinée, quand on y soit même. Issu d'une famille qui a subi la déportation, l'extermination.
Je voudrais réagir à ce qu'a dit Philippe Meyer. Et d'abord, vous remercier d'avoir resitué l'esprit gaussinien à sa juste place, je crois, cette ironie bon enfant, cette bienveillance dont vous avez parlé. Et du coup, sa modernité par rapport à la production de son temps. Et du coup, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Max Gallo par rapport à la question de l'individualisme. C'est-à-dire que, comme Astérix est à la charnière entre deux pans de notre histoire, les années de guerre... et la révolution culturelle, cet nouvel âge de l'individualisme du milieu des années 60, 68, etc. Du coup, la série est prise un peu à porte-à-faux et se trouve finalement rejetée en même temps que le journal Pilote est en crise et que Goscinny est accusé et, en tant que rédacteur en chef pour sa ligne éditoriale un peu passéiste par rapport à la nouvelle ère du temps. Astérix se trouve en retrait et du coup va même développer un certain nombre de critiques assez fortes contre ce nouvel âge de l'individualisme. Alors, 68, une figure de la jeunesse en crise, la crise du paternalisme dans les classes bourgeoises, par exemple, on le voit dans Le Domaine des Dieux, où un intendant de César n'arrive plus à avoir d'autorité sur son fils, qui est un osseur,
qui est actuel,
est dans une indifférence complète par rapport au modèle de respectabilité qu'on essaye de lui transmettre. C'est la satire du Living Théâtre.
Oui.
Qui est très forte dans Astérix et le Chaudron, avec derrière une utopie anarchisante où il faut retrouver le moi profond, les pulsions qui ont été finalement brimées par l'autorité, par la structure sociale, etc. Donc il y a une critique très forte, une critique de la psychothérapie comportementaliste importée des États-Unis dans Le Combat des Chefs, avec le druide Amnésix qui parle à la place de son patient Obélix et qui va créer les complexes sur sa grosseur, alors qu'Obélix ne demandait rien. Hein, donc il va s'imposer à sa place et tenir un discours totalement réducteur où il y a un dualisme conflit patient-thérapeute qui est très très fort et une visée adaptative comportementaliste aux besoins sociaux. Donc si on ajoute à ça la critique du marketing politique et publicitaire avec la caricature de Jacques Chirac, le fameux Néarque Saugrenus dont vous parliez tout à l'heure.
Je n'avais pas osé le dire.
Il y a tout d'un coup une mise en garde, une position de retrait par rapport à l'ère du temps qui est aussi tout à fait intéressante.
Écoutez, nous sommes arrivés presque au terme de cette conversation. Je voudrais juste vous poser une dernière question et qui prolonge celle que vous a posée Thierry Pêche tout à l'heure sur l'avenir, au fond, la lisibilité à venir d'Astérix. Est-ce qu'il ne faut pas considérer que le cinéma en aura été à la fois l'apogée et la fin ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de ce que nous disons là, de ce que vous venez d'évoquer et que vous évoquez si bien dans vos livres, il n'y a plus rien de ça dans le cinéma. Il n'y a plus que la réduction à des personnages connus de tout le monde et qui permettent donc d'essayer de faire des scénarios où c'est, non pas comme disait le regretté Bergson, du mécanique plaqué sur du vivant, mais c'est du mécanique plaqué sur du mécanique.
Oui, c'est un petit peu le sort des séries à grande diffusion, d'être reprises, transformées, adaptées. Je dirais pas qu'on pourrait le comparer au retravail du mythe, mais parce que là, il s'en perd beaucoup, justement, de ces aspects mythologiques. Mais il y a peut-être quand même quelques petites choses qui peuvent passer dans le film de Chabat. La question autour de la décadence, autour de la difficulté à construire moderne, puisque c'est le pari que lance César à Cléopâtre, était bien posé au début du film et permettait de donner une perspective à l'ensemble. Difficile de juger. Il faudra juger avec le prochain scénariste, donc Ferry, qui a été désigné par Uderzo comme le successeur de Goscinny et son propre successeur.
Merci beaucoup, Nicolas Rouvière. La référence de vos livres sera sur la page de l'émission. Les albums d'Astérix sont publiés chez Dargaud et Hachette et aux éditions Albert René. C'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Véronique Villa, préparée avec Mathilde Wagman et Thomas Jeannet Morando. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Vous avez rendez-vous avec Antoine Perrault pour Tire ta langue. Il a invité Michel Legrain pour son dernier livre qui porte non pas sur une bande dessinée mais sur une littérature pour enfants et aussi un peu pour adultes. La comtesse de Ségur, mots, silences et stéréotypes, tel est le sujet de leur conversation. Quant à nous, la semaine prochaine, pour la première émission de l'année 2012, nous la commencerons avec quelqu'un dont l'esprit pourrait bien nous être fort utile dans les temps qui viennent, avec Winston Churchill, et donc c'est François Kersaudy, son biographe, et aussi celui qui publie aujourd'hui un certain nombre de mots de Churchill aux éditions Talendier. J'espère vous retrouver l'année prochaine et la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.